On est sur un sujet qui est à la fois central pour les consommateurs, central pour l'ensemble de la filière. C'est un sujet presque géopolitique, un sujet stratégique dans un climat qui est en train de se dérégler de plus en plus.
En toute transparence.
C'est un sujet critique pour les fabricants parce que sans matières premières, faut le rappeler, il n'y a aucune production de produits finis. On a vu pendant le Covid à quel point certaines industries pouvaient s'arrêter du jour au lendemain.
Le podcast En toute transparence a été imaginé en partenariat avec l'ADEME.
Bonjour à tous, je suis David Garbous, fondateur du cabinet de conseil Transformation Positive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En toute transparence, le podcast qui raconte le succès des entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre. Dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes, sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable, en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent les clés pour réussir. Pour la saison 3 de ce podcast, j'ai toujours avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir William Serfati, chef des marques enfants du groupe Bell. Les marques enfants du groupe Bell, c'est la vache qui rit, Babybel et Kiri entre autres. Bonjour William.
Bonjour David.
Alors je suis particulièrement heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet qui fait l'actualité en ce moment, l'approvisionnement agricole et qui est déterminant pour l'avenir des marques. L'enjeu effectivement c'est d'être capable de sécuriser, de pérenniser finalement l'approvisionnement des ingrédients, des recettes qu'on consomme aujourd'hui et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur cette sécurité et pérennité alimentaire. Et effectivement, dans l'actualité, la colère des agriculteurs a remis quelque part une couche sociétale de préoccupation sur ce sujet-là. Les consommateurs, de leur côté, une de leurs premières demandes, c'est « je veux savoir d'où ça vient, par qui c'est fait et comment c'est fait ». Donc on est sur un sujet qui est à la fois central pour les consommateurs, central pour l'ensemble de la filière. C'est un sujet presque géopolitique, un sujet stratégique dans un climat qui est en train de se dérégler de plus en plus. Et donc c'est un sujet critique pour les fabricants, parce que sans matières premières, il faut le rappeler, il n'y a aucune production de produits finis. On a vu pendant le Covid à quel point certaines industries pouvaient s'arrêter du jour au lendemain. Alors, quelques mots sur le groupe Bell pour commencer. Vous êtes un groupe familial, indépendant, français, fondé en 1865. Vous êtes distribué dans 130 pays avec 29 sites de production sur les 5 continents. Les consommateurs vous connaissent donc pour les fromages comme la vache qui rit, Apéricube, Boursin, Babybel, mais aussi Kiri dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est numéro 12 sur le marché mondial du fromage. C'est ça, vous êtes le 12e fromage le plus vendu dans le monde.
C'est bien ça.
Depuis 2020, donc, vous êtes également engagé sur le végétal, à côté du lait, matière première historique de Bell, avec deux initiatives. Donc, en 2020, vous avez racheté au groupe All In Food la marque Nourish. Et en 2022, vous avez fait l'acquisition des desserts fruités Materne. Donc, Bell, c'est désormais de l'animal et du végétal, dans une proportion qui est en train d'évoluer. Et vous aviez annoncé une ambition assez forte sur cette dimension végétale. Vous avez réalisé 3,6 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Vous vous développez depuis quelques mois sur le marché chinois et indien. Et moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que vous faites partie de ces marques qui m'ont bluffé en termes de positionnement stratégique avec une direction RSE qui a hyper bien posé les sujets de résilience alimentaire à 20 ans. Des choses qui ont été reprises au plus haut niveau de la direction du groupe. Mais jusqu'à récemment, c'était, de mon point de vue, extrêmement difficile de voir comment cette ambition se traduisait concrètement dans l'offre produit. On avait l'impression que le marketing était endormi chez vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le réveil a sonné et on va en parler maintenant. Alors William, le comité de sélection a retenu votre lancement sur la marque Kiri avec l'arrivée de Kiri Bio en juin 2022. Il intervient ce lancement après celui de la vache Kiri Bio aussi en avril 2019 et Babybel Bio lancé en février 2022. Donc on sent qu'il y a un vrai mouvement transversal sur ce sujet chez vous. Et du coup, ma première question, un petit peu en écho au clin d'œil que je faisais tout à l'heure, c'est comment vous en venez à la direction marketing à décider d'orchestrer ces typologies de lancement. peut-être pas les repasser tous en revue, mais on sent qu'il y a quand même un mouvement stratégique dans cette direction. Est-ce que c'est une impulsion, comme je le disais tout à l'heure, de la direction RSE avec un programme qui a été mis en place? Est-ce que c'est vous, au niveau marketing, qui identifiez une opportunité de marché? Comment ça marche?
Alors souvent, lorsqu'on innove, on repart du consommateur. Ça a été le premier point de notre facteur de décision, on va dire, pour lancer cette innovation. Et ici, donc, en écoutant les parents à la recherche d'un produit sain, bon et de qualité. D'où le lancement du produit Kiri Bio Bon et Responsable. C'est son nom. Et ensuite, en voulant faire le pont, c'était important pour nous entre le côté ludique, pédagogique et la réassurance des parents. Et enfin, l'idée nous est venue aussi parce que depuis 10 ans, nous avons un partenariat avec WWF. Donc nous avions la volonté commune de sensibiliser les jeunes générations à la biodiversité. Et par rapport à votre question sur les directives du programme RSE, il y a une stratégie globale chez Bell depuis plusieurs années, ce n'est pas une surprise. Et Kiri Bio, Bon et Responsable, s'inscrit totalement dans ce modèle, c'est-à-dire une alimentation saine et durable pour tous.
Et alors, donc, pourquoi c'est lancé à ce moment-là, l'opportunité de marché parce que le bio a décollé dans les hypermarchés quelques temps avant. Là, il est un petit peu en difficulté. Comment est-ce que vous identifiez le bon moment pour lancer et la fenêtre de tir idéale?
Alors, nous avons ressenti le besoin de réassurance des parents d'avoir des produits bons et de qualité pour leurs enfants. Et donc, notre savoir-faire associé à la thématique de la biodiversité nous a permis de nous démarquer des autres offres avec une proposition unique. Et donc, nous prévoyons même d'ici 2024 de doubler nos volumes sur notre référence bio, bon et responsable.
D'accord. Donc, c'est un programme sur plusieurs années de développement. Alors, il y a deux points qui ont intéressé particulièrement le jury dans le dispositif. Vous avez commencé à l'évoquer, c'est le travail conjoint avec le WWF pour ce lancement d'un programme pédagogique sur la biodiversité. Il y a aussi quelque chose qui vous caractérise, que vous avez lancé avant le programme bio, qui est... Le programme de sourcing Origine France avec l'association des producteurs de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si le programme bio s'est intégré au sein de cette initiative antérieure, s'il a permis de la développer, comment et comment ça fonctionne?
Alors, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, nous sommes partenaires depuis 2013 avec WWF, donc c'est un partenariat de long terme. Et nous avons donc co-construit finalement ce projet pour démocratiser la biodiversité aux plus jeunes. Et depuis son lancement en 2022 à fin 2024, nous estimons environ à 1 million le nombre de packs écoulés qui seront porteurs d'un message de biodiversité. Donc c'est important pour nous de montrer l'étendue de ce lancement et du programme qu'il porte. Ensuite, concernant l'imbrication des différents éléments, c'est vrai, il y a plusieurs parties prenantes. Le premier, vous l'avez dit, ce sont nos éleveurs partenaires de la PBO, donc c'est l'association des producteurs Bell West, avec qui nous avons un partenariat depuis 2017 pour mettre en place des pratiques agricoles plus durables, entre autres. Et parmi ces pratiques, il y a donc le développement de l'agroforesterie avec 30 agriculteurs qui ont été formés. Donc ça, c'est la partie éleveur partenaire. Et ensuite, il y a le partenariat Bell WWF qui date donc d'environ 10 ans, qui nous a permis finalement de mettre en place la plantation de 45 000 arbres depuis 2019 dans environ 40 exploitations. Et on ambitionne d'ici à fin 2025, 30 000 arbres supplémentaires plantés. Donc le programme a démarré avant et va continuer après le lancement de Kiri Bio Bon et Responsable.
Et du coup, les producteurs qui vous fournissent en bio, ils sont membres de l'association des producteurs Bell de l'Ouest, ou c'est d'autres types d'agriculteurs qui suivent un programme aussi spécifique pour vous?
Ils font partie de la PBO.
Ils font partie de la PBO, tout d'accord. Donc ça a permis de déployer encore plus ce que vous aviez lancé quelques années avant, très clair. Sur la partie agroforesterie, vous avez commencé à y répondre. C'est un programme aussi qui avait démarré avant cette initiative. Mais ce qui nous intéresse aussi dans le prix, c'est de voir la cohérence de la stratégie. Et c'est ce qui nous a séduit, c'est que vous aviez démarré quelque chose en non-bio avant. Et on a eu le sentiment qu'avec ce lancement-là, vous aviez eu la possibilité d'accélérer. Est-ce que les parcelles bio sont aussi concernées par l'agroforesterie? Et est-ce que vous avez des éléments qui permettent de démontrer que ces parcelles ont des performances supérieures en termes de biodiversité?
Tout à fait. Les programmes d'agroforesterie sont destinés à l'ensemble des producteurs qui travaillent avec Bell, dont les producteurs bio. Donc 100% des exploitations de la PBO ont réalisé un diagnostic carbone. Et c'est vrai qu'en comparant finalement les exploitations bio avec les autres, on observe davantage de haies et de prairies permanentes. donc une biodiversité plus développée et un stockage carbone amélioré. Donc oui, il y a des différences.
Ça, vous avez réussi à l'objectiver.
On a réussi à le calculer, tout à fait.
Hyper intéressant. Alors, je vous propose qu'on parle maintenant du produit. Est-ce que le fait qu'il soit fabriqué avec du lait bio, ça c'est une question qui est souvent remontée par des consommateurs, va lui donner un goût différent? Est-ce que le kiri bio a un goût différent du kiri classique?
Alors, je vous rassure, il y a toujours le bon goût de crème kiri iconique. Cela ne change pas et on l'a vérifié tout au long du process de fabrication. Il n'y a aucun impact sur le goût.
D'accord, donc on a juste la dimension agricole qui change, mais la perception en bouche pour le consommateur final est la même, très claire. Si on regarde l'emballage, vous avez fait un effort particulier donc sur le sourcing. Est-ce que pour ce qui concerne le packaging, vous avez utilisé des méthodes un peu différentes de ce que vous faisiez sur les autres produits ou c'est en cours de développement?
Sur l'emballage, nous sommes toujours dans cette logique d'amélioration continue. C'est-à-dire que nos emballages aujourd'hui sont 100% recyclables et nous continuons de travailler pour améliorer notre empreinte carbone. Mais ça reste l'emballage que vous pouvez retrouver sur les autres packs de Kiri.
Donc c'est le même dispositif. Alors je reviens comme on le disait tout à l'heure, vous avez à côté de ce lancement déployé ou continué de déployer un programme de sensibilisation à la biodiversité. Ça nous a particulièrement intéressé avec le comité de sélection parce que on sait que pour embarquer les consommateurs dans la durée sur ces sujets de transformation, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer pourquoi le produit est différent, expliquer comment ils peuvent impacter en achetant ce produit un certain nombre de choses supplémentaires. Ils gardent le même goût, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en achetant celui-là par rapport à un autre, il va y avoir des impacts supplémentaires, notamment sur le sujet de la biodiversité. La pédagogie est un sujet clé. Est-ce que vous pouvez nous décrire le programme et comment il a contribué au succès du lancement?
Alors, le programme repose sur deux grands principes qui sont assez simples. Le premier, vous l'avez dit, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire que c'est important pour nous d'avoir cette brique ludopédagogique. Apprendre et s'amuser en même temps, ça reste le mot d'ordre sur Kiri. Et on voulait en même temps engager les parents et les enfants à devenir ce qu'on a appelé avec notre activation, devenir les gardiens de la biodiversité. Donc les enfants pouvaient jouer avec l'emballage, soit en découpant, soit en pliant l'emballage pour faire différentes formes d'insectes.
Très clair. Alors, ça, si j'ai bien compris, c'était la première partie du programme. Vous nous avez parlé d'une deuxième partie tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous la décrire?
Tout à fait. La deuxième partie du programme, c'est la concrétisation. Finalement, c'est comment on rend concret nos paroles aux actes. C'est la formation des éleveurs partenaires. 30 éleveurs ont été formés dans 24 exploitations.
D'accord. Sur les sujets de la biodiversité en particulier?
Sur les sujets de biodiversité et d'agroforesterie.
D'accord. Donc vous avez tiré un bilan très positif de votre lancement, c'est aussi la raison pour laquelle on vous a retenu, hein, puisque notre sujet c'est d'expliquer que quand on met la RSE dans le business et qu'on le raconte bien à ses clients, ça marche mieux que du business classique. Donc vraiment, première étape réussie. Est-ce que les prochaines étapes sont déjà planifiées pour 2024? Vous pouvez nous raconter des choses dans les programmes de développement?
Alors on a plusieurs missions sur 2024. La première, c'est de continuer de développer la distribution de cette offre au plus grand nombre d'enseignes.
Et ensuite, elles n'ont pas toutes référencé le produit, ça veut dire? D'accord, très bien.
On continue de travailler le référencement de la référence Kiri Bio Bon et Responsable. Et ensuite, c'est de réitérer notre belle activation en mai 2024.
D'accord.
Donc voilà, en avant-première.
Ça, c'est dans les cartons, bien sûr.
Suite au succès du lancement en 2022, on a décidé de renouveler cette activation pour devenir les gardiens de la biodiversité.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, William, pour cette première partie. On rentre dans une deuxième partie du podcast où ça m'intéresse d'avoir vos conseils suite au retour d'expérience que vous venez de nous partager. Quels conseils vous auriez envie de donner à d'autres entreprises pour réussir une stratégie d'approvisionnement responsable en particulier et aux étudiants qui nous écoutent?
Si je devais donner quelques conseils, le premier serait de fédérer différentes parties prenantes autour d'une cause commune. Pour nous, ça a été la biodiversité, par exemple. Ensuite, c'est de construire des bases solides avant de communiquer. Je rappelle que notre partenariat WWF date de 10 ans, donc ce n'est pas quelque chose d'opportuniste.
Bien sûr.
Ensuite, je dirais la sincérité de la démarche. C'est important et les consommateurs le ressentent. Et enfin, je dirais la simplicité des messages pour qu'ils soient compris par le plus grand nombre.
Merci beaucoup. Deuxième petite question supplémentaire. Si j'aimerais que vous puissiez nous recommander une bonne pratique à surveiller pour 2024, si vous avez observé une ou plusieurs initiatives qui vous mérite selon vous de candidater, ça nous intéresse d'avoir votre point de vue de professionnel et puis on les contactera de votre part bien sûr.
J'ai une initiative qui me tient à cœur, qui est un petit peu orientée, mais les marques Kiri, Babybel et Vache Kiri ont lancé une campagne de soutien aux jeunes éleveurs début 2024 avec une cagnotte participative pour réaliser des projets concrets et impactants. Donc affaire à suivre pour le jury.
Une initiative à surveiller donc pour 2024, merci William. On espère un nouveau dossier Bel pour cette année. « Alors maintenant, William, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline et Bérénice qui ont écouté notre conversation et qui ont été inspirées pour leurs propres questions. Elles ont carte blanche. Caroline, je te propose de commencer.
Merci David. Bon, merci beaucoup William pour toutes les explications. Forcément, Kiri, Belle, ça renvoie à notre propre enfance. Et donc j'ai bien noté que sur ce sujet du Kiri Bio, vous aviez développé tout un sujet de packaging vraiment dans un sens aussi pédagogique auprès des parents et des enfants. Ma question, alors je sais que c'est toujours compliqué, mais est-ce que cette approche pédagogique sur les enfants, vous avez pu la tirer jusqu'aux écoles, jusqu'aux cantines? Est-ce que c'est un projet qui a été mis en place puisque les enfants mangent généralement entre 4 et 5 jours aussi à la cantine, donc j'imagine que c'est un sujet important aussi pour vous.
Vous avez raison, c'est un sujet qui est très important et c'est à l'école qu'on goûte finalement nos premiers produits, son premier Babybel, son premier Kiri. Donc c'est pour nous des enjeux forts à développer. Et on a une équipe chez Bell qui s'appelle le Food Service, qui est justement dédiée à aller rentrer dans les écoles, dans les EHPAD, dans les cantines, pour essayer de faire découvrir nos portions de bien manger aux plus jeunes.
Et sur le Kiri Bio en particulier, ça fait partie des propositions que vous faites dans ces cantines-là et ces collectivités. Ça a aussi bien marché que dans la grande distribution ou c'est plus compliqué?
Alors c'est plus compliqué sur le bio, parce qu'il y a aussi un enjeu de prix derrière.
D'accord.
Par rapport à la portion. Et on a du mal aujourd'hui à rentrer nos références bio.
Mais
comme
même s'il y a une obligation 20% de bio dans les cantines, c'est pas aussi évident que ça.
C'est pas automatique, on va dire. Donc ça reste difficile en tout cas de rentrer dans les écoles et les cantines.
D'accord, mais c'est un enjeu aussi complémentaire de rentrer dans les GMS et les écoles. Ouais.
Tout à fait, c'est très complémentaire pour nous.
Très bien.
Ce sont les mêmes consommateurs.
Alors Bérénice, toi tu avais une autre question.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup William pour tous ces éclairages sur les coulisses des actions concrètes avec les parties prenantes et les agriculteurs. Alors moi, ma question, Bell a acquis Nourish en 2020. On sait que l'élevage a un gros impact environnemental et vous annoncez des objectifs clairs d'un point de vue RSE. Du coup, à quand le Kiri végétal, après le Kiri animal? Est-ce que c'est un produit que vous envisagez ou alors c'est un produit qui serait complètement dénaturé par rapport à l'essence de Kiri, le petit fromage de vache de notre enfance?
Vous l'avez dit, le végétal reste une stratégie importante pour le groupe Bell et on cherche à continuer de le développer. Mais c'est pas dans les tuyaux pour la marque Kiri. Kiri s'adresse avant tout à des jeunes enfants avec certains besoins nutritionnels. Donc on va plutôt axer notre communication et nos produits sur la diversification alimentaire des jeunes enfants.
Merci à vous pour ces questions et ces échanges. Merci à William pour s'être prêté au jeu et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager et le commenter. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.
En toute transparence a été créé avec le soutien de l'ADEME, de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo, de l'école Audencia et de l'agence Pixelis.
So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante.
L'humour sauvera-t-il le monde?
Spoiler,
oui.
Et comment?
La preuve en 25 pages et autant d'histoires. De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
Et c'est tout? Juste de l'humour?
Non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant.
Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
So Good, en vente partout chez vos marchands de presse.